Chapitre 7. Accepter la maladie. Bonjour Anna. Ça me fait plaisir de te revoir. Notre dernière rencontre a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Que s'est-il passé depuis? Pour commencer, Lise, je veux te remercier pour tes conseils à propos des tâches à la maison. J'attendais que plusieurs semaines s'écoulent avant de t'en parler, car je ne croyais pas que l'entente durerait. Le soir où nous sommes venus te consulter, Mario et moi, nous étions allés dîner au restaurant avant de venir ici, et Sandra nous a dit qu'une amie venait la rejoindre pour préparer leur examen de maths. À notre retour, vers 21h, elles étaient assises toutes les deux devant la télévision, et chacune d'elles était en train de manger un gros sandwich et s'était servi un verre de cola. Sandra me dit « Vous arrivez plus tôt que je ne pensais. Nous venons de terminer nos révisions et nous avions faim. J'ai offert à ma copine de manger quelque chose avec moi. Et maman, me dit-elle au moment où je me dirigeais vers la cuisine, ne te fâche pas, je vais tout nettoyer plus tard. Horreur, tu aurais dû voir l'état de la cuisine. C'était comme si une tornade était passée. Non seulement tous les ingrédients pour garnir leur gros sandwich traînaient sur le comptoir, mais aussi tout ce que Sandra avait utilisé pour préparer son dîner. Je ne peux pas croire qu'une seule personne puisse faire autant de dégâts. J'ai tout de suite senti la moutarde me monter au nez et je m'apprêtais à l'apostropher quand Mario m'a retenu et m'a chuchoté. « Tu te souviens de ce que Lise nous a dit ce soir ? Que nous allons devoir nous asseoir tous les trois ensemble pour définir exactement les tâches de chacun d'entre nous et nos attentes respectives. Tu ne peux pas faire ça ce soir, tu es trop en colère. Je crois qu'il serait préférable que nous ayons tous la tête reposée pour nous parler. Qu'en dis-tu ? Viens, je vais t'aider à tout nettoyer car je la connais, notre Sandra. Elle dit plus tard, mais ce plus tard est toujours remis à plus tard. On pourrait en reparler demain soir, hein ? » Juste le fait que Mario m'aide à ramasser était déjà quelque chose d'inhabituel. J'étais tellement contente que j'ai suivi son conseil. Le lendemain soir, nous avons procédé comme tu nous l'as conseillé, en donnant à Sandra le choix de décider si oui ou non elle voulait faire partie de la famille à tous les niveaux. Dans la journée, j'avais pris le temps d'établir une liste des choses à faire pour nous trois, quel que soit le choix de Sandra. Eh bien, je n'en suis pas encore revenue. Elle a dû sentir que j'avais lâché prise et que j'étais bien déterminée à ce que cette situation concernant les repas et la vaisselle se règle. Pour les autres tâches, ce fut assez facile de nous les partager à trois. Pour les repas, nous sommes convenus que celui qui fait le repas n'a rien à nettoyer par la suite, et ce sont les deux autres qui le font. Depuis, Sandra s'est aperçue qu'elle aime cuisiner. Un soir, je me suis fait jouer un tour. Ils ont préparé un super repas à deux et voulaient me surprendre. Par la suite, ils m'ont dit que je devais tout nettoyer seule vu qu'ils avaient déjà fait leur part. Ça ne m'a pas frustrée. J'ai même été capable d'en rire en leur disant que ce n'était pas dans le contrat, mais que de temps à autre, c'était acceptable. Je ne dis pas que c'est toujours parfait. Il arrive encore à Sandra de dire « plus tard ». Et je me suis aperçue que, lorsque je me fâche, le plus tard est vraiment tard. Lorsque je lâche prise et que je me dis que ce n'est pas si grave que sa tâche ne soit pas faite tout de suite, elle le fait beaucoup plus rapidement. J'aime bien aussi les négociations que nous faisons quand l'un de nous veut se faire remplacer pour une tâche. Ça nous fait rire à chaque fois. Encore une fois, un gros merci, Lise, car l'atmosphère dans la maison est bien meilleure. Maintenant, je veux partager avec toi comment ça s'est passé avec maman. Je lui ai parlé comme convenu et ça s'est déroulé beaucoup mieux que je ne le pensais. Je lui ai avoué que j'avais peur de devenir toujours plus grosse et que je croyais que j'avais peur d'être à son image physiquement, car je l'ai beaucoup accusée de se laisser aller. Je me suis alors empressée de lui avouer que ma vraie peur était beaucoup plus de perdre Mario, qu'il parte et trouve une autre femme plus belle et plus mince que moi. Elle est alors devenue toute rouge. J'ai su dès lors que je touchais à quelque chose qui la concernait. Je lui ai parlé de ce que tu nous apprends, qu'il est normal qu'une fille ait les mêmes peurs que celles de sa mère. Elle m'a regardé intensément. Elle était au bord des larmes. Je lui ai demandé si elle avait déjà eu cette peur. C'est alors que j'ai eu la surprise de ma vie. Elle m'a avoué que papa avait une maîtresse, qu'elle l'avait découvert et que, finalement, Il se sentait tellement coupable qu'il a renoncé à sa maîtresse et a promis à maman de ne plus jamais recommencer. Elle croit qu'il a tenu sa promesse, mais elle a toujours eu des doutes. C'est pour ça qu'elle lui est si dévouée, pour qu'il ne la quitte pas. Je lui ai alors parlé de son poids et j'ai vérifié avec elle si, à ce niveau-là aussi, elle avait de la difficulté à s'accepter. Elle a fini par acquiescer, mais comme elle est, semble-t-il, incapable de mincir, elle préfère ne plus y penser. Elle m'a avoué avoir essayé toutes sortes de produits et de barres santé pour maigrir, mais que rien n'a fonctionné. Elle se pesait tous les matins pour découvrir chaque fois que son poids changeait à peine sur la balance. Un jour, elle a décidé de jeter la balance à la poubelle et d'arrêter toutes ses tentatives. Elle a même changé les porte-miroirs de la garde-robe de sa chambre, sous prétexte qu'elle avait envie de nouvelles portes en bois. Ainsi, elle ne voit plus que son visage dans les autres miroirs. C'est incroyable, n'est-ce pas, à quel point on peut ignorer qui sont nos parents. Nous avons passé un dimanche après-midi ensemble et j'ai fait plusieurs découvertes. Ça nous a fait tellement de bien de nous parler ainsi, de ce que nous vivions toutes les deux. C'était comme si nous n'étions plus mère et fille, mais plutôt deux amies de longue date. Si j'avais su qu'une telle conversation était possible avec maman, il y a longtemps que je l'aurais eue. Pourquoi avons-nous de la difficulté à nous ouvrir ainsi, entre parents et enfants? Pourquoi avons-nous aussi peur? C'est à cause de l'éducation que nous avons reçue. Très jeune, nous apprenons qu'une figure d'autorité est là pour nous critiquer, nous juger, nous reprendre sur tout ce que nous ne faisons pas correctement. Nous croyons que nos parents, ou les adultes en général, ne peuvent pas nous comprendre. Il y a de ce fait un grand écart entre les générations. Il y a le parent et l'enfant, le professeur et l'élève, le patron et l'employé, etc. Heureusement, avec l'ère du Verseau, c'est en train de changer. Maintenant, nous devons nous habituer au nouveau courant de pensée de cette époque nouvelle. Un de ces changements est d'accepter le fait que nous sommes tous égaux et que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Un parent peut faire une multitude de découvertes sur lui-même grâce à ses enfants, tout comme les enfants découvrent ce qu'ils ont à accepter grâce à leurs parents. Il en est ainsi dans tous les autres domaines. De plus, ta mère s'est ouverte à toi parce qu'elle n'a pas senti d'accusation de ta part. C'est le secret de la bonne communication. Dis-moi, as-tu été capable de parler à Mario de la même façon? Tu devais lui parler de ta peur de grossir et surtout de ce qui est caché derrière cette peur. Oui, je l'ai fait le soir où j'ai parlé à maman. J'étais particulièrement encouragée par ce qui venait de se passer avec maman et je croyais que ça se passerait aussi bien avec lui. Mais ça n'a pas été le cas. Il m'écoutait poliment et je lui ai avoué ma peur de le perdre si je continuais à grossir ainsi. Il m'a répondu qu'il avait lui aussi de la difficulté à accepter que je devienne plus grosse chaque année et qu'il m'aimait mieux quand j'étais plus svelte. Je me suis mise à pleurer. Je ne savais plus quoi dire. Je croyais qu'il était en train de me dire qu'il me quitterait. Je vais te raconter comment la suite s'est passée pour que tu me dises quelle erreur j'ai commise. Il me semble que j'ai agi comme tu me l'avais conseillé, comme je l'ai fait avec maman. Quand il a vu que je continuais de pleurer, il s'est levé pour quitter la pièce. C'est ça. Sauve-toi, tu n'es qu'un lâche. Tu dis que tu m'aimes, et ce n'est qu'aujourd'hui que tu me dis que tu vas me quitter si je continue de grossir. Pourquoi ne pouvais-tu pas m'en parler avant? Je n'ai jamais dit que j'allais te quitter, c'est toi qui sautes aux conclusions. Ne me mets pas des paroles dans la bouche. J'ai dit que je te préférais plus svelte. Qu'y a-t-il de mal là-dedans? Dis-moi, si je grossissais beaucoup, est-ce que ça te plairait? Toi aussi tu as changé depuis que nous nous connaissons. Tu as perdu la moitié de tes beaux cheveux que j'aimais tant. Tu t'habilles souvent d'une façon que je n'apprécie pas. La peau de ton ventre et de tes cuisses est beaucoup plus molle qu'avant et tu as des bourrelets de chaque côté de la taille. Moi aussi, j'aurais préféré que tu ne changes pas. Ne crois-tu pas qu'il est utopique de croire que nous allons garder le même corps qu'à 20 ans? Tu m'as dit il y a quelques minutes que tu avais des choses importantes à partager, mais je constate que tu cherches plutôt la dispute. Tu es bien parti pour me trouver plein de défauts. Nous sommes dimanche soir, je dois me lever très tôt demain matin, et je n'ai vraiment pas envie de finir cette soirée par une dispute. Il serait préférable que nous parlions de tout ça une autre fois. Sur ce, il a quitté la pièce pour aller regarder la télévision, et je suis restée bouche bée. Ça ne s'est pas du tout passé comme je le voulais. Une semaine s'est écoulée depuis et je n'ai pas encore été capable de reprendre cette conversation. Si tu savais comme je m'en veux de lui avoir dit tout ça. L'atmosphère a été lourde toute la semaine. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour régler cette situation. J'ai même peur de lui parler. Je remets donc toujours au lendemain. As-tu une idée pourquoi la situation a mal tourné? Te souviens-tu de ce dont nous avons parlé auparavant? Que se cache-t-il derrière toutes les situations qui nous font vivre des émotions? Maintenant que tu me le demandes, ça me revient. J'ai réagi aussi vivement en l'accusant à cause de ma blessure d'abandon. Voilà où j'ai agi différemment avec lui. Je suis tombée dans l'accusation. Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte tout de suite? C'est pourtant tellement évident. Tu as raison. Ta douleur a débuté avec ta peur d'être abandonnée et tout de suite après, lorsque tu as commencé à vivre de la colère et à l'accuser, tu es tombé dans ta blessure de trahison et dans un comportement de contrôle, donc accusateur. Si tu n'avais vécu que de l'abandon, tu aurais continué à pleurer ou à le supplier de ne pas te quitter. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Mais pourquoi n'ai-je pas été affectée lorsque je discutais avec maman, tandis que je suis rapidement tombée dans mes blessures? Quand j'ai voulu faire la même chose avec Mario. Tu n'as pas besoin de me répondre, je le sais. Je suis toujours surprise de voir à quelle vitesse j'obtiens une réponse quand je me pose la bonne question. Je me sens accusée par Mario parce que je ne m'accepte pas moi-même. Qu'est-ce que je dois accepter au juste pour réussir à lui parler sans me mettre en colère et sans me sentir accusée? Tu te souviens avoir rapidement déduit qu'il te quitterait si tu continuais à grossir? Cette réaction est arrivée pour t'aider à prendre conscience que tu es persuadée qu'être grosse égale être abandonnée. Voilà ce que tu dois accepter. Ce qui se passe en toi, c'est que tu t'en veux de grossir alors que tu es convaincue que c'est le meilleur moyen de perdre Mario. Voilà la première chose que tu n'acceptes pas. Cependant, en devenant plus consciente, il y a une autre chose que tu n'acceptes pas. Tu t'en veux de croire à quelque chose qui met un frein à ton bonheur et à ta liberté d'être ce que tu es à chaque instant. Tu vois, il était important pour toi de grossir afin que tu puisses prendre conscience de cette croyance et du fait qu'elle ne t'est plus utile. Elle te rend malheureuse plutôt qu'heureuse. Au plus profond de toi, tu sais que tu ne veux croire qu'à des notions qui t'amènent vers le bonheur. Donc, et récapitulons. Tu crois qu'être grosse égale être trompée et éventuellement être abandonnée par ton conjoint. C'est la même croyance que celle de ta mère. Et je te rappelle que tu ne crois pas à cela parce que ta mère y a toujours cru, mais bien que cette croyance identique fût une des raisons pour lesquelles vous avez été attirés l'une envers l'autre. Puis, à un moment de ta vie, tu as décidé que tu ne serais pas comme ta mère. Le fait que ta mère, malgré son poids, soit encore avec son conjoint et vive dans la soumission plutôt que dans la joie, te pousse à croire que si tu ne veux pas finir comme elle, tu devras donner raison à ta croyance que Mario va te tromper et te laisser un jour. Ainsi, tu ne subiras pas le même sort que ta mère. Est-ce que ce que je viens de dire a du sens pour toi? Anna fait signe que oui, mais avec hésitation. Je lui donne un moment pour bien assimiler ce que je viens de dire et lui demande de répéter ce qu'elle a entendu. Je vois que tu as bien saisi ce que je viens de dire. Une situation comme celle-ci est difficile à vivre, car elle implique des croyances qui se contredisent. Que tu choisisses d'être comme ta mère ou non ne te rendra pas plus heureuse. Hélas, notre système de croyances ne sait pas que plus nous croyons à quelque chose, plus nous le provoquons. C'est pour ça que tu as grossi, car tu mettais l'emphase sur ne pas grossir, et le subconscient ne comprend que les images qui accompagnent les pensées, Donc, dans ton cas, l'image d'une personne grosse. Quelle puissance nous avons pour créer, ne trouves-tu pas? Un jour viendra où tu seras tellement plus consciente de ce que tu veux vraiment que tu utiliseras cette puissance pour écouter tes besoins. Ce que tu dois arriver à faire dans cette vie-ci, c'est de te donner le droit de prendre du poids sans croire que tu seras obligatoirement abandonné par ton conjoint. Sais-tu pourquoi notre ego continue de nous faire peur pour alimenter nos blessures? Non, parce qu'il est convaincu que nous ne pouvons pas gérer la douleur vécue lorsqu'une blessure est activée, que nous pouvons même en mourir. Dis-moi, crois-tu vraiment que si Mario te laissait, tu en mourrais? Je n'en mourrais peut-être pas, mais je dois te dire que le cœur me fait mal juste à l'idée que ça pourrait arriver. Je ne sais pas comment je m'en sortirais. Pourquoi est-ce si difficile à envisager? Je connais plein de femmes qui se sont retrouvées seules et, bien souvent, elles s'en sont très bien sorties. Elles n'en sont que plus fortes parfois. Pourquoi ne puis-je penser ainsi pour moi? À cause de ce que tu es venu apprendre dans cette vie-ci. Plus tôt, tu m'as raconté ce que ta mère a vécu quand elle a découvert que ton père la trompait. Même si tu crois n'en avoir rien su quand tu étais jeune, tu as certainement capté la douleur et la peur intense d'être abandonnée que ta mère a ressentie. C'est tout à fait normal pour les enfants d'occulter une douleur de ce genre, car la plupart ne savent pas comment la gérer. C'est aussi certainement à cette occasion que ton ego a pris le dessus pour te protéger. Tu as dû décider, inconsciemment, que tu ferais tout pour que ça ne t'arrive jamais. Cette douleur a été ravivée, à ton insu, au moment où Mario a laissé sa femme pour t'épouser. Même si c'est Rita qui a été abandonnée par lui, ta peur a été ravivée quand même. Il est donc tout à fait normal que tu continues à entretenir la peur qu'il te quitte, sachant fort bien qu'il l'a déjà fait à quelqu'un d'autre. Tu vis donc la même chose que ta mère. Tu restes aux aguets, tu doutes que ton bonheur puisse continuer avec ton conjoint. Voilà pourquoi le seul moyen d'arriver à guérir ta blessure d'abandon, c'est en étant capable d'envisager d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un d'autre sans te juger ou sans juger l'autre. C'est savoir que des expériences d'abandon doivent être vécues par tous, en se souvenant que celui qui abandonne ne veut pas nécessairement faire du mal à l'autre. Il est uniquement en train d'exprimer ses limites ou ses besoins. Voilà la raison d'être de tout le monde. Vivre toutes les expériences que nous attirons dans l'acceptation et sans jugement. Lorsque tu pourras t'imaginer vivre un abandon sereinement et dans le moment présent, mais surtout en sachant que la vie continuerait pour toi, à ce moment-là seulement, ton ego acceptera de ne plus t'imposer toutes ses croyances. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que, si tu acceptes l'idée que tu pourrais gérer un abandon, Mario t'abandonnera automatiquement. Généralement, c'est le contraire qui se produit. Si tu n'entretiens plus la peur d'être abandonné, en y mettant plus d'énergie et en demeurant en contact avec ce que tu veux vraiment, il y a de fortes chances pour que tu n'attires pas cette situation. Si malgré tout, tu attires un abandon, ce sera justement pour te tester, pour que tu puisses découvrir que tu es véritablement capable de le gérer. Après avoir fait la paix avec un abandon éventuel, l'étape suivante est de remercier ton ego d'avoir voulu te protéger, tout en lui laissant savoir qu'il est vrai que tu ne veux pas être abandonné, mais que si ça arrivait, tu saurais le gérer. Je t'assure que, dès que ton ego te sentira dans ta certitude, il lâchera prise et te laissera vivre et être ce que tu es sans s'interposer. Tu vivras ce moment comme une grande libération. Tu sentiras un poids en moins sur tes épaules. Ça prend beaucoup d'énergie pour entretenir toutes ces croyances. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que tu t'en libères, tu le vis comme un soulagement et tu as un regain d'énergie. À mesure que tu parles, je sens quelque chose se passer en moi. J'ai vraiment envie d'arriver à faire ce que tu dis. Mais dis-moi, si j'y parviens, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de grossir, voire même mincir? J'attendais cette question. Te voilà en train de vouloir contrôler les résultats. Tu sauras que tu as vraiment accepté cette croyance et ta peur de l'abandon quand tu pourras accepter toutes les éventualités possibles. Quand on veut tout contrôler, cela indique qu'on ne veut pas s'ouvrir à de nouvelles expériences dans notre vie, alors qu'elles sont nécessaires et souvent très bénéfiques. Veux-tu cesser de grossir parce que tu n'es pas sûr de garder ton Mario? Si c'est le cas, c'est cette peur qui t'incite à contrôler la situation. Il est triste de constater que, lorsque nous ne changeons pas notre attitude, nous finissons toujours par produire ce dont nous avons peur. Tu me diras que ta mère ne sait pas attirer une séparation, un abandon, mais ce qu'elle vit est aussi, sinon plus, pénible que si ton père l'avait quittée. Elle vit l'expérience d'abandon dans sa tête plutôt que dans son monde physique. Est-ce mieux ou plus facile selon toi? Elle est loin de vivre le bonheur auquel elle aspire. Elle continue d'entretenir sa peur de l'abandon et donc d'aggraver sa blessure plutôt que la guérir. Une chose est certaine, le fait que tu veuilles prendre en main la guérison de ta blessure d'abandon aura un effet très positif sur ce que vit ta mère. De plus, inconsciemment, ça va aider ta fille au niveau de ses relations futures. Ça aura aussi un effet sur la peur de l'abandon que Mario vit avec toi. Tu te souviens, n'est-ce pas, que lorsque nous vivons une peur avec quelqu'un, l'autre vit la même peur avec nous? La seule différence, c'est qu'il y en a toujours un qui est plus conscient de sa peur que l'autre. Avec ce qui vient d'être dit, te sens-tu plus apte à parler avec Mario? Oui, je veux absolument y arriver. Il faut que je réussisse cette fois-ci. Je ne veux pas rater mon coup comme l'autre fois. Ah, que tu t'en demandes beaucoup. Tu es comme la plupart des gens qui ne se donnent pas le droit de rater quoi que ce soit. Est-ce que tu trouverais normal d'exiger d'un jeune enfant qu'il sache monter à bicyclette du premier coup? De ne pas lui permettre de tomber et de recommencer afin d'y arriver? Eh bien, c'est ce que tu fais à l'instant. Donne-toi le droit de ne pas savoir comment t'y prendre. Tu ne l'as jamais fait auparavant. Tu es en train d'apprendre. Même s'il faut que tu t'y prennes à plusieurs reprises, ce qui compte, c'est ton intention. Juste le fait de vouloir à tout prix y arriver, je peux te garantir qu'un jour tu y parviendras. Sois plus patiente et tolérante envers toi-même et fais confiance à l'univers qui est toujours là pour t'appuyer. Je comprends mieux ce que tu veux dire quand tu mentionnes à quel point la majorité des personnes ont de la difficulté avec l'acceptation. Ça en fait des choses à accepter, hein? Oui. Mais l'avantage de pratiquer l'acceptation est que ça devient de plus en plus facile et rapide. La pratique a le même effet, peu importe le domaine. Comme la notion d'acceptation ne nous a jamais été enseignée, il est normal et humain d'avoir de la difficulté à l'expérimenter. Le plus grand obstacle est notre ego, qui a une peur bleue de disparaître s'il n'a plus de pouvoir sur nous. Je te répète ce dont il est primordial de se rappeler à propos de l'ego. Il y a deux choses importantes que l'ego vise sans cesse. Se nourrir des croyances que nous continuons d'alimenter et savoir qu'il est vivant de par le pouvoir qu'il exerce sur nous. Il ne peut sentir ce pouvoir que par l'entremise du corps physique quand ce dernier vit des peurs et des émotions. L'ego est une création de notre plan mental. Il ne peut donc pas savoir que ce qu'il croit ne répond pas aux besoins de notre être. L'ego est une excroissance du plan mental. Il n'est pas naturel. Comme toute excroissance dans le corps physique d'un individu, nous lui avons donné notre pouvoir. C'est donc à nous de le reprendre en décidant ce que nous voulons pour nous.